entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 9 mai 2025. Ces dernières années, des citoyens du Vieux-Québec dans le secteur du Petit-Champlain et du Vieux-Port ont fait part de leur exaspération quant à la vitesse des automobilistes et à la circulation des camions. La Ville a donc dévoilé jeudi de nouvelles mesures pour sécuriser le secteur.
Vitesse réduite à 40 km/h entre le Petit-Champlain et la rue Dalhousie, des contrôles radars plus nombreux sur le boulevard Champlain et de la sensibilisation aux camionneurs, c'est ce que prévoit la Ville de Québec pour apaiser ce secteur touristique fortement fréquenté par les motorisés.
Consultez le reportage d'Alice Zanetta dans la section Actualité du CKIAFM.org. Médecins du Monde Canada, l'Association des intervenants en dépendance du Québec ainsi que 26 autres organismes d'une coalition œuvrant en réduction des risques et des méfaits expriment leurs préoccupations à l'égard du projet de loi numéro 103. Déposé le 6 mai par le ministre québécois responsable des services sociaux, Lionel Carman, ce projet de loi vise à réglementer les sites de consommation supervisés. Sa mise en œuvre pourrait avoir pour conséquence un recul dangereux des services de soins et de soutien dans un contexte de crise des surdoses et de l'itinérance. Accès Transport Viable, le collectif pour un transport abordable et accessible à Québec et quatre autres organismes, dont le REPAC 0312, déplorent les hausses de tarifs annoncées par le réseau de transport de la capitale. Pour Accès Transport Viable, ça n'a pas de sens de voir les tarifs augmenter sans cesse alors que les services et les salaires n'augmentent pas proportionnellement. Pour sa part, le REPAC 0312 aurait souhaité que le tarif d'un billet simple payé en argent comptant soit moins élevé, rappelant que pour plusieurs personnes en situation de précarité financière, c'est souvent la façon privilégiée de se procurer un titre parce qu'elles n'ont pas les moyens d'en acheter plusieurs à la fois. Près de 3 internautes du Québec sur 4 affirment avoir réduit ou cessé leurs achats en ligne auprès de marchands américains. C'est ce que révèlent des données recueillies en mars dernier par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, rendue publique dans le cadre de sa plus récente enquête « Net tendance ». Selon les données recueillies entre le 13 et le 30 mars auprès d'environ un millier d'internautes du Québec, 17 % des répondants déclarent avoir boycotté la plateforme d'achat en ligne Amazon, alors que 32 % mentionnent avoir réduit leurs achats sur cette dernière. Une messe d'action de grâce pour célébrer l'élection du nouveau pape aura lieu ce soir à compter de 19 h à l'église Notre-Dame de l'Annonciation située à l'ancienne Lorette. La messe sera présidée par l'évêque auxiliaire Marc Pelchat. C'est le diocèse de Québec qui en a fait l'annonce, disant accueillir avec émotion le pape Léon XIV. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Chaque jour, chaque matin, était une invitation enjouée à m'assurer que ma vie fût aussi simple, aussi innocente, pourrais-je même dire, que la nature elle-même. Je fus un adorateur d'aurore aussi sincère que pouvaient l'être les Grecs. Je me levais tôt et me baignais dans l'étang. C'était un exercice religieux, une des meilleures choses que je fis jamais. Le matin, faire renaître les âges héroïques. J'étais aussi touché par le vrombissement subtil d'un moustique faisant sa ronde invisible et inimaginable dans mes appartements aux toutes premières lueurs de l'aube, portes et fenêtres ouvertes, que j'eusse pu l'être par aucune trompette ayant jamais sonné l'air de la renommée. C'était le requiem d'Homère. Son vol était à lui seul l'Iliade et l'Odyssée, chantant sa colère propre et ses propres errances. Cela avait quelque chose de cosmique, comme une déclaration perpétuée jusqu'à ce qu'on l'interdit de l'éternelle vigueur et de l'éternelle fertilité du monde. Le matin, qui est la période la plus marquante de la journée, est l'heure du réveil. C'est au matin que nous avons le moins de somnolence en nous, et l'espace d'une heure au moins, une part de nous s'éveille, qui demeure en sommeil tout le restant du jour et de la nuit. Il y a peu à espérer d'un jour, si l'on peut l'appeler jour, à l'aube duquel nous ne sommes pas réveillés par notre génie propre, mais par l'action mécanique de quelques serviteurs. Un jour où nous ne sommes pas réveillés par notre force et nos aspirations internes, nouvellement recouvrées, au son des accents mélodieux de la musique céleste, et non de quelques cloches d'usine, tandis qu'un vif parfum vient emplir nos narines. Nous nous éveillons alors à une vie plus haute que celle en laquelle nous nous étions endormis, et c'est ainsi que les ténèbres portent leurs fruits et s'avèrent bénéfiques tout autant que le jour.
D'écrire bien et sincèrement si on ne fait pas dans la joie. Le corps, les sens doivent travailler avec l'esprit, l'expression et l'acte du corps tout entier. Que notre parole soit parcourue de vaisseaux. L'intelligence est impuissante à exprimer la pensée sans l'aide du cœur, du foie et de tous les membres. Je sens souvent que ma tête se dresse trop sèche, alors qu'elle devrait être immergée. Un écrivain, un homme en train d'écrire, est le scribe de toute la nature. Il est le blé et l'herbe et l'atmosphère en train d'écrire. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais.
Je veux l'autre. Je veux des terres d'accueil pour l'exilé. Je veux des matins de liberté. Liberté, couleur et rose. Je veux qu'on fonde des broussailles, des chants d'amour qui s'élèvent. J'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie pour écrire, pour écrire. Je veux tant de trêves dans notre histoire, je veux des terres cultivables pour l'espoir. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires. J'ai devant moi la vie.
Bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on aura une émission qui sera orientée vers la science, une émission scientifique. On a un invité, un astrophysicien physicien avec nous, Jean-René Roy, qui va nous parler, entre autres, de son dernier livre, À la poursuite de l'horizon. Puis aussi, on va parler de l'Anthropocène, qui est un concept qu'on utilise beaucoup là, en écologie. On en parle à l'émission. Alors, on va discuter un peu de l'Anthropocène, du point de vue scientifique. Mais avant ça, j'ai quelques annonces et quelques lectures que je veux vous présenter rapidement. On vient de, comme d'habitude, on a eu une pièce de Richard Séguin de son album « Retour à Walden ». Et Richard Séguin, j'ai fait un peu plus long aujourd'hui parce qu'il a été intronisé au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens. C'est une récompense là, importante qu'il a reçue, intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Et alors, on à chaque semaine, on fait jouer une pièce de Richard Séguin de son album. Alors, je pensais important de souligner ça. Puis aussi, pour ceux que ça intéresse, justement, c'est à Coaticook le 18 mai, la semaine prochaine. Il va donner une conférence sur taureaux au musée, à Coaticook, au musée de Beaune, à Coaticook, le 18 mai prochain. Vous allez, c'est pour ceux que ça intéresse, vous allez sur le site Internet de musée de Beaune, B-E-A-U-L-N-E, puis j'imagine les infos sont là pour sa conférence. Ensuite, la semaine prochaine, du 12 au 17 mai, c'est le Festival de décroissance qui est organisé par les Amis de la Terre. Il y aura des conférences tous les soirs, du lundi au vendredi, puis le 17 mai, samedi 17 mai, pas samedi demain, mais le samedi suivant, il y aura une journée complète avec des kiosques à La Patente, à Limoilou. Alors ça aussi, si vous êtes intéressé, tellement qu'aller sur le site Internet des Amis de la Terre. Quelques petits articles rapidement que j'ai retenus. Dans le Devoir de mardi, un texte de Simon Paris-Poupard. C'est lui qui écrit le livre là, sur le vidangeur, là. L'auteur est vidangeur, d'ailleurs. Et dans la revue À bâbord, c'est le dernier numéro, À bâbord numéro 103, on parle de recyclage et d'utilisation des déchets. Alors, et ici, dans l'article, on dit quoi de mieux que d'être dans un système politico-économique basé sur l'argent et en profitant sans utiliser le moyen prescrit pour le faire croître, puisque ces dernières années, la croissance a été maintenue par la consommation et que l'endettement des ménages ne cesse de croître. Arrêter cette dynamique pour soi, c'est la possibilité de prendre conscience de notre dépendance envers les objets qui nous entourent, de la complexité des techniques et de la logistique ayant permis le racheminement jusqu'à notre domicile ou le magasin le plus proche. C'est respecter la matière, les composants, le travail et l'énergie mis dans leur production. Dès lors, comprendre et assumer les très probables piètres conditions des travailleurs les ayant produits, les ressources limitées qui sont enchevêtrées entre eux. Ainsi, prendre conscience que ces biens sont réservés à certains plus qu'à d'autres. Et enfin, surtout, réaliser le revers de tout cela. Alors lui, il dit être « freegan », c'est surtout dire par le glanage de tout et le refus d'acheter. Alors, c'est ça, il parle de freegan, c'est une pratique de recyclage, de récupération des objets qu'on trouve dans les vidanges. Par le glanage de tout et le refus d'acheter, que notre société en a déjà produit assez de tous ces objets, que nous n'ayons plus collectivement à produire davantage. Il faut en prendre soin et se les partager. Alors, c'est une simplicité volontaire. On en parle beaucoup de ça, de respecter les objets qu'on a. Puis lui, en tant que vidangeur, il dit qu'il a tout meublé son appartement gratuitement avec des objets qu'il trouvait dans les vidanges. Alors, c'est dans le devoir de mardi, mais si vous voulez, vous pouvez acheter la revue À bâbord, là, qui est en kiosque présentement. C'est le numéro 103. Aussi, dans le devoir de mercredi, des Québécois plus écolos qu'il y a 15 ans, moins de déchets, plus d'achats seconde main et de compostage. Les Québécois sont bien plus écologiques qu'il y a 15 ans, selon le récent baromètre de la consommation responsable dévoilé mercredi. Portrait de la progression et des limites de nos habitudes vertes en 5 faits saillants. Alors, c'est un texte d'Annabelle Caillou. Dit du réflexe au mode de vie. Il y a 15 ans, la consommation responsable, c'était acheter des produits plus écologiques. Maintenant, c'est un vrai mode de vie, constate Fabien Durif, directeur de l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM, qui a piloté cette étude. L'OCR publie chaque année, depuis 2010, le baromètre de la consommation responsable qui analyse les habitudes des consommateurs. Cette année, le document revient sur l'évolution des 15 dernières années. Au quotidien, les Québécois cherchent davantage à recycler, composter, consommer local ou privilégier des achats durables et de qualité. Parmi les quelques 2000 répondants au sondage, 64 % estiment même que consommer de manière plus éco-responsable aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Ce mouvement est d'abord porté par les femmes qui sont depuis la première édition du baromètre les premières à adopter ces bonnes habitudes. Les plus de 65 ans mettent aussi du cœur à l'ouvrage en préférant particulièrement acheter local et manger de saison. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'était dans le devoir de mercredi, page B4. Et il y a aussi un texte que j'ai retenu, c'est toujours dans le devoir de mercredi. On parle d'agriculture de régénérescence sous la loupe des scientifiques. Je ne m'étendrai pas là-dessus trop longtemps, mais ce concept-là, l'agriculture de régénérescence, c'est vraiment l'avenir de l'agriculture. Il faut cultiver nos sols, puis même si vous êtes jardinier, bien, l'agriculture de régénération, pour un jardinier, là, c'est la permaculture, c'est cultiver pas seulement les légumes, mais cultiver son sol. Alors, pour que notre sol se régénère, et pour ceux qui pourraient vraiment être habiles là-dedans, on pourrait même avoir un sol qui se régénère ainsi qu'on n'a presque pas besoin de l'enrichir. Un texte dans le devoir toujours de mercredi. Dernier texte que j'ai retenu dans le devoir d'aujourd'hui. Le Québec recycle trop peu ses vieilles chaussées bitumineuses. Alors, ça aussi, il y a les gouvernements aussi qui doivent mettre l'épaule à la roue. Puis, on est en retard au Québec, semblerait, au niveau de la, quand on construit nos routes. On ne récupère pas le bitume suffisamment, le vieux bitume. Il y a une façon de le récupérer, de le transformer en espèce de granulat qu'on réintègre dans le nouveau bitume. Et c'est ça. Alors, il s'agit pourtant de l'approche la plus rapide pour réduire l'empreinte carbone de la construction des routes. C'est énorme, la possibilité de réduire les émissions seulement qu'avec une pratique de récupération. Alors, j'espère que les gens du ministère des Transports vont lire cet article-là dans le devoir d'aujourd'hui. Dernière petite chose, c'est dans le kiosque à journaux est arrivé le dernier Philosophie Magazine hors série. Pour ceux qui veulent s'intéresser à la philosophie, c'est l'art de la guerre. Quand même un thème qui est important, la guerre et son corollaire, la paix, toute une réflexion sur la guerre et la paix. C'est dans le dernier Philosophie Magazine hors-série qui vient tout juste d'arriver en kiosque. Alors, je prends une petite pause musicale. Pour retour, on va parler avec M. Roy de son dernier livre et de l'Anthropocène.
Fortune à l'horizon, c'est tout le temps d'une culture, d'une cueillette dans la nature, parfois celui d'un long silence, face à l'homme blanc qui est sans patience. Aïe, 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 aïe. Hi, 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 hi. Plus il reçoit et moins il donne. Le conquérant qui réquisitionne. Sciences ancestrales et traditions. Les traites de superstition. Il veut niveler l'autre culture. À force de coups et de blessures, l'Indien le met sous surveillance. Cet homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi.
C'était Jean-Marc Corel. Respecte la vie de son album Jean Lamoureur. Avant ça, ben, je vous en avais parlé un peu. Là, Richard Séguin. Devant moi la vie de son album Sur les pas de taureau. Alors, Monsieur Roy, est-ce que vous êtes avec nous?
Je suis bien avec vous, M. Delorme, et heureux de l'être avec vous, vos auditeurs et vos auditrices.
Bon. Et ben c'est ça, avant, je voulais vous, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui vous connaît, là, je disais que vous veniez de publier un livre, là, La poursuite de l'horizon, mais c'est pas votre premier livre. Vous, vous êtes astrophysicien. Juste un peu pour nos auditeurs, nous parler de qui vous êtes un peu, pour, avant qu'on commence à parler de notre sujet. Oui, allô?
Oui. Je vous entends pas très bien, donc c'est pour ça. Donc, vous voulez que je décrive un peu mon parcours?
Oui, voilà,
donc,
voilà.
Je suis astrophysicien, présentement retraité, ce qui me donne le temps de consacrer mes efforts à l'écriture, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai une carrière, disons, assez longue. J'ai obtenu mon doctorat en Ontario et aux États-Unis en 1973, donc ça vous donne une idée un peu de... plus de 50 ans de parcours. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler en recherche en astrophysique. J'ai été professeur à l'Université Laval de 1977 jusqu'à 2000 au département de physique. Et j'ai changé un petit peu de carrière en 2000 pour prendre un poste de direction à l'Observatoire Gemini, qui opère deux télescopes. Le premier qui est au sommet de Mauna Kea à Hawaï, un grand télescope de 8 mètres. C'est la façon dont on détermine la dimension du télescope par la dimension, le diamètre de son miroir primaire. Et ensuite, après 6 ans à Hawaï, je suis allé à notre, entre guillemets, succursale au Chili, l'hémisphère sud, où on a un télescope jumeau identique avec une instrumentation un peu différente. Donc, j'étais là au Chili 2006 à 2009. Et là, j'ai été, entre guillemets, rapatrié pour travailler à la National Science Foundation aux États-Unis, qui est la grande agence scientifique qui finance la recherche fondamentale et appliquée aux États-Unis. Et j'ai fait une dernière année aussi au télescope spatial, l'Institut scientifique du télescope spatial, qui s'occupe du fonctionnement du télescope Hubble et du télescope James Webb. Donc, en gros, c'est le résumé de ma carrière. Mes sujets ont été sur le Soleil, la physique du milieu entre les étoiles, l'évolution des galaxies, et donc où j'ai fait des contributions. Et depuis lors, en fait, je consacre mon temps à explorer des questions plus d'ordre fondamental, la nature de la science, comment elle fonctionne.
Oui, puis justement, c'est un peu le sujet de votre dernier livre, là, le titre, c'est « À la poursuite de l'horizon », que j'ai pas lu au complet, j'ai pas eu le temps de lire au complet, mais j'en ai parcouru des bons bouts. C'est un très beau livre qui nous explique justement comment la science, le parcours d'une théorie scientifique, comment ça se fait. C'est un travail, et vous appelez ça, là, vous, le feuilleté du réel. Pouvez-vous nous parler un peu de ça, la science, comment ça fonctionne?
Oui. En fait, c'est le troisième de mes livres pour tenter d'expliquer comment fonctionne la science. C'est un peu, c'était pour répondre à mes propres questions et aussi à celles des étudiants que j'ai eues dans les années 90, qui étaient la formation des maîtres pour l'enseignement des sciences au niveau secondaire. Donc, j'avais mis sur pied un cours qui est devenu mon premier livre sur l'explication du fonctionnement de la science. Ça s'appelait Les héritiers de Prométhée. Ensuite, un deuxième qui est allé un peu plus loin, que j'ai appelé Sur la science, qui surprend, éclaire et dérange. Et À la poursuite de l'horizon, c'est un peu mon point final de la trilogie. Donc, et là, je suis allé un peu plus dans le détail, entre guillemets. Donc, vous faites allusion au feuilleté. Donc, la première chose, j'ai tenté d'éclairer, c'est comment les scientifiques abordent la réalité autour de nous, réalité que les scientifiques tendent d'expliquer par une approche rationnelle et au moyen d'hypothèses, d'apports et de théories. Et la notion de feuilleté est la suivante. Donc, comment on peut décrire le réel? On sait tous et chacun qu'on ne voit qu'une partie de l'univers. Ce que nos yeux perçoivent, déjà, si vous prenez une paire de jumelles, vous allez voir des détails que vos yeux, sans aide, ne peuvent pas observer. Avec un télescope, vous allez voir autre chose, des étoiles qui étaient invisibles, des galaxies que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Et la même chose avec le microscope. Donc, ça donnait un peu l'impression que, parce qu'il fallait changer d'outil, que l'univers nous apparaissait comme un feuilleté. Cette analogie a été mise de l'avant par le philosophe français Gaston Bachelard. Et un peu cette idée, c'est cette perception qu'on peut avoir que finalement, parce qu'il faut prendre différents outils pour voir les différentes couches, entre guillemets, de l'univers, qu'il nous apparaît comme un feuilleté. Mais le tout est un ensemble qui est un. Donc, n'est pas finalement divisé en couches. C'est nous, comme humains, à cause de la limite sensorielle de nos perceptions, qui devons prendre des nouveaux outils et qui définissent finalement des couches dans l'univers. Et ça va jusqu'au point où, en science, ça va définir différentes spécialités comme la physique, la chimie, la biologie, la géologie.
La science, bon, c'est très d'actualité parce que quand on parle de science, on parle de recherche du vrai, de recherche de la vérité. On en a parlé en tant que vertu des philosophes là, avec notre philosophe invité, le Jacques Sénécal, il y a quelques semaines. Puis je voyais une publicité dans un National Geographic hier, puis il montrait la Terre, puis c'est écrit au-dessus de la photo de la Terre, elle est ronde, et en dessous, ça disait « La science n'est pas une opinion, c'est notre avenir ». C'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a, avec les médias sociaux, tellement de choses qui se disent, on ne distingue pas la différence entre une opinion puis quelque chose qui est élaboré avec une espèce de consensus. On va en revenir avec l'idée du consensus tantôt avec la discussion sur l'Anthropocène. Mais moi, en tant que géographe, par exemple, j'ai vu la théorie de la tectonique des plaques qui, aujourd'hui, c'est le fondement de toute la géologie, cette théorie-là, puis qui est tout récente. Et puis, auparavant, on savait pas comment les montagnes se formaient, comment la Terre se formait. Puis, c'était le résultat, cette théorie-là. Puis, c'est ça, la science, d'interaction entre des centaines, des dizaines de savants qui font une recherche. Et c'est ça, la science a un rôle fondamental de nos jours pour qu'on évite de s'égarer, là, comme on voit avec les médias sociaux. Je trouve que votre démarche, pour moi, est importante de ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus.
Oui, en fait, juste la notion de vrai, en fait, qui peut être différente pour le philosophe et le scientifique. Disons, vous prenez l'exemple de la sphéricité de la Terre. Donc, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, il faudrait qu'il apporte ses mesures, ses observations, ses démonstrations. Donc, l'opinion, en fait, est vide quand quelqu'un essaie de contredire ça. Mais je vais aller juste un petit peu plus loin, M. Delorme, ici, prenant l'exemple de la sphéricité de la Terre. Donc, la Terre est une sphère, oui, mais elle est un petit peu plus complexe. Et c'est Newton qui l'avait prédit que parce que la Terre tourne sur elle-même, elle aurait un aplatissement. Elle aurait une élongation dans les régions équatoriales par rapport au pôle. Et ça s'est révélé exact. Donc, le diamètre de la Terre, qui est à peu près 12 000 kilomètres, je n'irai pas dans le détail, mais son diamètre équatorial est à peu près 40 kilomètres plus long que son diamètre polaire. Donc, c'est pour ça que, oui, la Terre est sphérique, mais plus exactement, c'est une ellipsoïde. Donc, un peu légèrement aplatie, pour des raisons physiques très bien expliquées et prédites par la théorie de la gravitation de Newton. Et même, on peut aller au-delà, si on regarde en détail maintenant avec des cartographies très précises, on voit que par rapport à cette ellipsoïde de référence, donc rappelez-vous, 40 kilomètres à peu près plus gros à l'équateur que dans l'axe dit polaire, il y a des déviations d'à peu près d'une centaine de mètres. Et ces déviations par rapport à l'ellipsoïde de base on appelle ça le géoïde, qui peut être important pour certaines applications terrestres. Ceci est juste pour vous dire que, disons que la Terre, oui, est une sphère, entre guillemets, mais quand on regarde dans les détails, il y a toujours quelque chose qui nous montre que c'est pas exactement une sphère. Elle est ellipsoïde et modifiée. C'est pour ça qu'en science, je préfère de parler d'aller vers la vérisimilitude plutôt que la vérité, qui semble pour moi un peu trop catégorique. C'est que, revenant à ce que je disais au début, pour explorer la nature dans les détails, il faut en fait utiliser des outils. Et chaque outil introduit certaines incertitudes qui nous amènent à une plus grande précision. J'ai donné l'exemple de la Terre. Donc, il faut faire attention, oui, la recherche du vrai, mais le travail scientifique est d'essayer, avec les moyens qui nous permettent d'explorer des zones pour lesquelles nos sens sont insensibles, d'explorer des choses, et c'est de toujours tendre vers quelque chose qui est de plus en plus proche de la véritable structure. Retenez l'exemple de la Terre. Et c'est pour ça que cette recherche m'amène à l'analogie du titre de mon livre, à la poursuite de l'horizon. Donc, l'horizon, c'est quelque chose qui est là, qui est défini entre guillemets, du point de vue où on est, mais si on atteint l'horizon perçu premièrement, quand on est rendu, l'horizon, si vous êtes en mer, est encore plus loin. Donc, c'est cet aspect que je voudrais, sur lequel je voudrais insister pour distinguer la démarche scientifique. Oui, une recherche du vrai, mais une méthode qui, entre guillemets, met l'emphase sur la vérisimilitude. Qu'est-ce qui est le plus proche du concept actuel de réflexion et surtout des instruments de mesure qu'on a à une époque donnée?
Bon, écoutez, on va prendre une pause musicale là-dessus. Là, on a mis la table un peu pour vous, au niveau de la science, comment la science fonctionne. C'est sûr, on a seulement qu'une demi-heure pour notre émission d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne une base de réflexion. Puis on va revenir sur le sujet de l'Anthropocène. Donc,
exact.
Alors, on fait une courte pause musicale. Pour retour, on parle de l'Anthropocène. c'était Alexandra Streliski. La pièce est plutôt de son album Inscape. Alors, c'est ça. Alors, ce que vous nous expliquez, là, il y a la science cherche la vérité, mais pas la vérité ultime. C'est un processus. Elle a ses exigences. C'est pour ça, d'ailleurs, que la science est si importante, parce qu'on essaie d'être le plus proche de la vérité possible. C'est ça la différence avec une opinion qui est souvent pas appuyée sur des faits, mais appuyée sur des choses que les gens, des légendes ou des mythes. Alors, par rapport à l'Anthropocène, qu'est-ce que vous avez à nous dire en lien avec la science?
J'aime bien le saut qu'on fait à partir de mon feuilleté. Rappelez-vous que le feuilleté, au fond, c'est nous qui le crée. La nature elle-même est une. Elle n'est pas en couches comme telle. Les couches du feuilleté sont la manière qu'on a de décrire le monde. Et la proposition d'Anthropocène qui a été faite, c'est de créer une nouvelle époque géologique associée à la présence de l'homme sur Terre et surtout de ces marques qu'il aurait laissées dans la croûte terrestre. Donc, ce serait finalement une signature dans ce qu'on appelle la stratigraphie géologique. La proposition a été faite il y a quelques années, je crois, dans les années 60. Vous en savez peut-être probablement mieux que moi, M. Delambre, comme géographe.
C'était Paul Crutzen, qui est un...
Oui.
Mais ça fait pas si long, c'est pas dans les années 60, là. C'est dans les années 90 que je pense qu'il est proposé.
L'histoire de la Terre en différentes périodes, elle est correcte, ça nous fait des repères. Mais c'est nous qui mettons ces repères un peu. C'est comme, finalement, c'est comme si vous avez une terre quelconque, géographique, qui n'est pas connue, et pour vous y retrouver, vous allez peut-être mettre des balises, des poteaux, etc., un ruisseau, une rivière, comme telle. Donc, la Terre, en fait, par ses couches, et ses couches sont laissées par les différents phénomènes géologiques qui ont eu lieu, des grandes coulées de lave, des formations de continents, si on remonte aux premières époques. Et en passant, la Terre a un âge d'environ 4 milliards et demi d'années. Et il s'en est passé des choses. Et l'univers lui-même a à peu près 13 milliards 800 millions d'années. Donc la Terre est un peu plus qu'un tiers de l'âge de l'univers. Donc la Terre est vieille. La Terre est très vieille, en fait. Et nous, à la surface, nous sommes tout à fait très récents. Et ça va avoir de quoi dire avec l'Anthropocène. Donc, on a finalement établi différentes couches dans l'échelle de temps géologique. D'ailleurs, pour les auditeurs, auditrices qui sont intéressés, je trouve que l'article qui est sur le site Wikipédia en français, donc faites la recherche « Échelle des temps géologiques », vous allez avoir une très belle description de comment on fait ces distinctions entre les éons, les plus grandes périodes, les ères et en fait, les périodes. Par exemple, on associe une période donnée, le Cambrien, qui est peut-être la grande période récente, la plus récente, qui aurait commencé à 541 millions d'années avant le présent, et on l'associe avec une quantité assez phénoménale de certains fossiles d'animaux macroscopiques. La vie est apparue sur Terre il y a probablement plus de 3 milliards d'années, et elle a été sous forme microscopique pendant longtemps, donc a laissé peu de signes dans les couches géologiques. Donc, des couches très anciennes, en fait, on les associe à d'autres types de phénomènes géologiques. Mais à partir de cette époque, dit le Cambrien, qui appartient à une grande ère qu'on appelle le Phanérozoïque, on associe souvent les changements périodiques à des changements importants dans le corpus fossile. On trouve tout d'un coup un changement du type d'animaux qui existait. L'exemple, c'est associé au Cambrien que je suis en train de vous décrire, autour de 500 millions d'années avant Jésus-Christ. Donc, ce sont les trilobites. Tout le monde sait, par exemple, que on parle du Carbonifère plus récent, qui est lui à 300 millions d'années. C'est le signe de grandes végétations qui ont donné lieu aux nombreux dépôts de charbon qu'on utilise maintenant en production d'énergie fossile et ainsi de suite. La fin, il y a aussi le fameux tertiaire qui est associé, tertiaire crétacé, il y a un nouveau nom, je ne me souviens plus. C'est finalement marqué par la disparition non seulement des dinosaures, mais de beaucoup d'espèces d'animaux qui étaient plus gros entre guillemets que quelques kilogrammes, qui ne pouvaient pas se cacher sous terre, associés à l'impact d'un astéroïde avec la Terre il y a 60 millions d'années. Donc, vous voyez ces périodes. Maintenant, la proposition de l'Anthropocène, elle est très particulière, c'est qu'au lieu de regarder les phénomènes dits naturels ou des signatures dans la stratigraphie, on fait appel finalement à la signature des déchets laissés par les humains, des signes laissés par la civilisation humaine. Donc, qu'on peut appeler des technofossiles. Et cette période-là aurait commencé par la présence la plus active des humains au point de vue impact agricole et technologique qui remonterait à peu près à il y a 11 000 ans, à la fin de la dernière grande période glaciaire. Les humains sont, entre guillemets, présents en Afrique et en Eurasie, Homo sapiens, entre autres, depuis 300 000 ans. Et de même que d'autres comme nos cousins néandertal et nos cousins dénisovaniens. Donc, on définit une nouvelle couche du feuilleté géologique, entre guillemets, par cette appellation anthropocène qui serait basée sur ces fameux technofossiles. Aujourd'hui, les technofossiles les plus présents, ce seraient les plastiques. Ce serait nos dépotoirs de résidus, etc. et tout. Et évidemment, comme vous le savez, M. Delorme, mais c'est à vous de commenter, il y a eu une certaine opposition.
Ben oui, c'est que... Là, je veux juste un peu revenir avec l'idée de l'Anthropocène. C'est un spécialiste du climat qui s'appelle Paul Crutzen qui a proposé cette idée-là en 2000. Et là, la difficulté, c'est que lui, c'est pas un géologue, c'est pas un spécialiste de la stratigraphie, mais c'est un spécialiste du climat, pas n'importe quel. Il y a eu un prix Nobel là, pour ses recherches. Mais l'Anthropocène, elle a comme deux aspects. C'est que c'est une réalité qu'on pourrait dire historique. C'est que l'homme a un impact majeur sur la planète et tellement prédominant qu'aujourd'hui, bien, on est inquiet par son impact qui risque d'avoir peut-être un impact si profond que ça pourrait mener à une autre extinction. D'ailleurs, on semblerait qu'on est déjà dans une extinction là, présentement. Alors, c'est un phénomène qu'on pourrait dire historique et physique, mais M. Crutzen utilisait le mot anthropocène parce qu'il faisait référence à la géologie, parce que en géologie, on utilise les périodes géologiques, souvent se terminent par le mot « scène ». Alors, il pensait qu'on pourrait y arriver avec aussi que ça serait quelque chose de scientifique au niveau géologique. Puis c'est là que la difficulté est arrivée, c'est que ça a été accepté par l'Union géologique mondiale, l'idée de l'Anthropocène, mais les vrais experts, c'est l'Union de la stratigraphie, qui est vraiment, eux autres, ils étudient les strates dans les roches, comme vous parliez tantôt, pour identifier les différentes aires géologiques. L'an dernier, en 2024, on dit qu'on ne pouvait pas aller jusque au point de dire que c'est une ère géologique nouvelle. Alors, c'est un peu ça que l'idée, là. Puis c'est... On voit justement, c'est la science, c'est ça, la science, elle a ses exigences.
En fait, l'idée n'a rien de mauvaise comme telle, mais il faut faire attention qu'elle ne détourne pas la méthode traditionnelle où on caractérise les différentes époques, les différentes ères, les différentes périodes par des phénomènes géologiques et des marqueurs à très grande échelle. Et l'autre chose que je voudrais souligner, souvent, des marqueurs qui ont mis des millions d'années à faire leur marque. Et les humains, on est ici depuis peu longtemps. Disons, je parlais tantôt de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années. Et nos technofossiles, entre guillemets, ne remontent qu'à environ 11 000 ans. Et on le sait, quand on regarde l'histoire géologique, littéralement, il y a des couches géologiques qu'on sait avoir existé dans une région, mais dans une autre région, disparaissent complètement. Il y a des millions d'années de couches géologiques qui peuvent être disparues. L'exemple, ici, nous, à Québec, j'habite à Lévis, de mon côté du fleuve, je suis sur des roches de l'Ordovicien, 400 millions, 450 millions d'années. Vous, de votre côté, à Québec, et surtout dans les Laurentides, vous êtes sur des roches d'un milliard d'années. Mais il manque 600 millions d'années entre nous. Où s'est passé ça, etc. Donc, ici, la remarque que je veux faire, c'est que la présence humaine ici est d'une fragilité où nous-mêmes, on se fragilise et on sera probablement responsable de notre propre extinction. Donc, il y a ce jeu ici qui peut agacer les gens que l'humain est trop artificiel, entre guillemets, et probablement de durée beaucoup trop courte pour laisser une marque géologique, entre guillemets, marquante et à l'échelle planétaire, entre guillemets. Donc, mais en même temps, l'approche n'est pas mauvaise. Elle ne change rien à la réalité de l'évolution géologique. Et peut-être que, d'autre part, politiquement, elle peut sensibiliser l'humain à l'impact surtout négatif qu'on a sur notre planète.
Bon. On avance dans l'émission. J'ai le goût qu'on prenne une dernière petite pause musicale. Puis pour conclure un peu, faire le lien entre la première partie qui est la science et l'Anthropocène. Pour ceux qui s'intéressent aussi, qui voudraient lire sur l'Anthropocène, il y a une belle petite plaquette à la collection Que sais-je, qui s'appelle, le titre c'est l'Anthropocène. Je pense que c'est 15$. Ça a été publié l'an dernier, mise à jour en 2024, sauf que, bon, il manque le petit bout final, là, c'est que c'est l'an dernier que l'Union mondiale de stratigraphie a rejeté l'idée que, pour l'instant, en tout cas, que l'Anthropocène serait une ère géologique, sauf que c'est une réalité, là, humaine. Il n'y a personne qui nie cette idée-là que nous sommes à l'ère de l'humain. Sauf que, bon, alors, c'est pas une ère géologique, voilà. Alors, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent, c'est une petite plaquette aux éditions Que sais-je. Alors, on prend une dernière pause musicale. Pour retour, on va conclure là, sur notre sujet d'aujourd'hui.
Thank you.
Alors, c'est un petit extrait là, de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, qui est magnifique. Alors, M. Roy, il nous reste deux minutes pour conclure là, par rapport à notre sujet. Alors.
Oui, enfin, juste une remarque que je voudrais faire. La question de nommer des choses est assez importante en science, mais rappelez-vous ce que mon message du début, ça ne change pas à l'unité même intrinsèque de la nature. Nous, si on fait des divisions, la nature n'est pas comme ça, elle est une. Un petit épisode de carrière d'astronome. En 2006, l'Union astronomique internationale, qui est la réunion des astronomes, dans une réunion, il y avait une toute petite assistante. On a dégommé la planète Pluton de son statut de planète. D'ailleurs, s'il y avait le même vote aujourd'hui, on ne le ferait pas. Mais c'est un peu cavalier, en fait, comme procédure. Et peut-être que les gens, avec le débat autour de la troposphère, se souviennent de cet épisode, d'ailleurs, qui avait provoqué une réaction dans le grand public, qui ne comprenait pas pourquoi Pluton ne pouvait pas être une planète, surtout qu'elle satisfaisait les critères qui font qu'une planète est planète. En gros, il s'agit simplement de comprendre que dans notre description des planètes autour du Soleil, on a des catégories, par exemple, Mercure, Vénus, Terre et Mars sont des planètes qu'on dit rocheuses, tandis qu'au-delà, on a les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, qui sont des grosses planètes gazeuses, entre guillemets, peut-être liquides au centre. Et enfin, à la périphérie, on a maintenant, en plus de Pluton, toute une série de petites planètes qui sont plutôt des planètes faites de glace et un peu rocheuses. Et on les appelle tout simplement planètes mineures, petites planètes. Donc, on s'entend là que ça demeure une planète, mais dans la catégorie des planètes naines.
Oui, bien, effectivement, la science, elle est exigeante. Elle a ses exigences, c'est ce qui fait sa beauté. Mais oui, c'est ça. Là, c'est pas des certitudes ultimes. Alors, Pluton, est-ce que oui ou non, c'est une planète? Ça se pourrait qu'on change d'idée là, dans quelques années.
Oui, mais en fait, c'est l'idée de consensus qui est un critère important de fonctionnement d'une communauté scientifique et de programme de recherche. C'est un bon point que vous avez soulevé dès le début de notre entretien.
Oui, puis ça va être la même chose. Peut-être avec l'Anthropocène, ça se pourrait que l'Union de stratigraphie revienne sur sa décision, mais ça semblait être assez unanime là, de rejeter l'idée que l'Anthropocène, c'est une ère géologique. Mais rien n'est possible. Puis d'ailleurs, on a trouvé des endroits où on pouvait, dans la couche géologique, identifier là, des dépôts nucléaires qui sont reliés aux essais nucléaires qui ont été faits dans le monde. Alors, il y a des réalités. Sauf que l'autre problème avec l'Anthropocène, c'est on le débute quand?
Oui, en effet.
Alors, c'est très... Écoutez, M. Roy, malheureusement, c'est déjà terminé. C'est un gros sujet. Je rappelle aux auditeurs un beau livre que je vous recommande. Le titre, c'est « À la poursuite de l'horizon » de Jean-René Roy, notre invité d'aujourd'hui, et que je remercie. Puis aussi, pour ceux qui voudraient lire sur l'Anthropocène, dans la collection « Que sais-je? » L'Anthropocène, l'auteur, c'est Michel Magny. C'est le numéro 4209. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Roy.
Puis,
j'aimerais... Là, la saison achève. Il nous reste deux émissions là, pour la saison de cette année. Mais à l'automne, je pourrais peut-être vous réinviter parce que la science, c'est quand même important là, qu'on en parle avec toute la désinformation, etc., qu'on voit de nos jours. Je pense que c'est important, là, s'il y a une assise de...